toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, une rencontre, un reportage pour comprendre un métier assez méconnu et néanmoins essentiel pour celles et ceux que la vie a éloigné de l'accès à la santé, des systèmes de prévention et de soins. Ce métier, c'est médiateur de santé. En France, alors que les conditions d'égalité d'accès au système de santé sont théoriquement remplies du point de vue juridique par le biais de dispositifs comme l'assurance maladie universelle ou encore l'aide médicale d'État, l'AME, eh bien en réalité, l'égalité et l'accès au droit, à la prévention, aux soins ne sont pas pleinement effectifs et les zones urbaines n'échappent pas à ce constat. Malgré la qualité certaine de l'offre de soins dans les villes françaises, il est en effet parfois difficile pour certains d'avoir vraiment accès à la santé. Précarité, isolement, méconnaissance des droits et barrières de la langue sont autant d'obstacles à une bonne prise en charge. C'est dans ce contexte que la médiation en santé a été développée, d'abord par la société civile, puis par les institutions, afin de lutter contre les exclusions. Le médiateur de santé est donc devenu un trait d'union entre les personnes en situation de précarité et les professionnels de la santé, de l'action sociale ou du secteur associatif. Pour comprendre l'importance du médiateur, nous vous emmenons dans le nord de la France, à Lille-Sud plus précisément, un quartier populaire de 20 000 habitants. C'est là que, depuis 2016, l'ONG Médecins du Monde a créé un poste de médiateur de santé. Notre reporter Igor Strauss s'est donc rendu sur place pour suivre pendant 2 jours le médiateur de santé de l'ONG, un Syrien arabophone, ce qui, vous allez l'entendre, un précieux atout, dans les pas de Wassim, médiateur de santé à Lille-Sud. Voici donc une plongée sonore dans le quotidien d'une profession qui devrait se développer sur tout le territoire.
Maintenant, on va rendre visite à une dame de 83 ans qui est isolée chez elle. Elle est bien suivie au niveau médical. Son médecin traitant passe à domicile. Il y a l'infirmière qui passe tous les jours pour assurer la prise de médicaments. Femme de ménage tous les jours aussi. Or, c'est 3 personnes et nous, médecins du monde, il n'y a personne autour d'elle. Et on va voir maintenant, en fait, notre contribution en tant que médecin du monde, c'est que donner le temps et de passer, parler avec elle, prendre le temps de papoter, d'échanger un petit peu.
Bonjour, on
va
aller là.
Ça va? Vous pouvez nous ouvrir?
On la voit à travers la fenêtre.
Alors on passe toujours comme ça, je frappe sur la fenêtre, elle est au rez-de-chaussée. Je sais quand il est là, elle va nous ouvrir. Quand elle n'est pas là, ça veut dire qu'elle est à l'hôpital, parce qu'elle ne sort pas de chez elle. Elle fait des chutes, du coup elle ne peut pas sortir de chez elle toute seule. Et c'est pour ça qu'elle est toujours chez elle. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Ah oui? Mais vous êtes bien ici? C'est propre, il y a de l'espace.
Non. Il y a des rats.
Il y a des rats? Où?
Dans la cour.
Sauf que vous n'ouvrez pas la fenêtre.
Ben oui, hein. Les femmes de ménage, elles ne sont pas contentes, mais ils m'en fous. C'est le monsieur qui fait les photos.
Non,
la radio, moi.
Ah, la radio. Vous êtes du coin?
Non. Je suis de Paris.
Ah! C'est dangereux là-bas, hein?
Oh, ça dépend.
C'est un garçon à Paris.
Et votre garçon, donc, vous avez des nouvelles de lui ou pas?
Non.
Non.
Un jour, je le verrai quand je serai morte.
Vous avez combien d'enfants, vous, madame?
J'en ai eu 7.
Et comment ils vont, vos enfants? Vous avez des nouvelles?
Non. C'est dur.
Donc ça fait combien de temps que vous n'avez plus de nouvelles de vos enfants?
12 ans, par là. Tu ne mets pas où ils sont.
Alors du coup, comment ça se passe, la vie, tous les jours?
C'est dur. Je suis toujours enfermée. Il n'y a plus personne qui vient me promener. Il n'y a plus de monsieur. Il est parti dans un autre pays.
Vous me parlez un petit peu de Wassim? Vous êtes contente quand il vient vous voir?
Bah oui, hein. Je suis bien contente d'avoir quelqu'un de temps en temps. Parce que les femmes de ménage, c'est pas pareil, hein. Ils font rien.
Mais elles font le ménage. Et vous pouvez parler avec elles, quand même?
Bah oui, hein. On parle de son travail. Les maris ne travaillent pas, alors les femmes ils travaillent maintenant. C'est la mode.
Si vous deviez faire un résumé de votre vie, elle a été agréable, votre vie?
Non. J'étais mariée deux fois et deux fois ça n'a pas été. Ils sont morts tous les deux. J'ai eu des enfants, mais c'est ma soeur qui s'est occupée d'eux.
Pourquoi?
Parce que lui, il m'a mis dehors. Parce que j'avais des copines que je parlais. Il n'avait pas le droit de parler. Marié trop jeune, avec 17 ans.
Donc ça, c'est le monsieur qu'on a vu tout à l'heure sur les photos que vous m'avez montré?
Alors, c'est le deuxième.
Ah, ça, c'est le deuxième.
Il n'était pas méchant, lui. Le premier, il tapait. Alors. Parce que j'avais des copines. Le deuxième, il est parti. Tu peux rien dire.
Vous voulez qu'on vous laisse tranquille?
Oui.
Bon, merci en tout cas de nous avoir fait entrer.
C'est les petits frères des pauvres que je vais.
Vous faites quoi avec les petits frères des pauvres?
Ben, on mange, on parle, on écoute les musiques, l'accordéon. Je suis assis, je regarde la musique. Et ils vont venir me chercher.
Bon, on va laisser madame tranquille?
Oui.
Allez, au revoir.
Au revoir, monsieur. Merci,
au revoir, à la prochaine. Moi, je passe comme d'habitude, je frappe à la fenêtre et voilà. Vous me laissez entrer. À la prochaine, au revoir.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter.
Alors, je suis Elvina Amoros, coordinatrice du programme de Médecins du Monde à l'île Sud.
Donc l'île Sud où nous sommes actuellement, on reconnaît les briques rouges typiques de l'île. Quelle est la particularité de ce quartier? Pourquoi est-ce que Médecins du Monde est implanté dans ce quartier spécifiquement?
Déjà, c'est un quartier qui est en dehors du périphérique, donc c'est un quartier qui est un petit peu excentré. On a traversé le périphérique tout à l'heure. C'est un quartier qui fait à peu près une superficie de 3 km², qui n'est pas forcément alors moyennement grand, mais par contre qui a une population d'environ 20 000 habitants. Donc c'est un quartier qui est très dense en termes de population. Et en même temps, il y a une diversité d'habitats, une diversité de population. À l'origine, c'est un quartier ouvrier, donc il y a encore des habitations d'ouvriers ou d'anciens ouvriers. Et il y a toujours une grande proportion d'habitat social, donc de logement social. Et donc c'est un quartier qui est un peu excentré de l'île. Il y a différentes problématiques, notamment problématiques de trafic de drogue dans certains endroits et beaucoup d'usage de drogue. Et pour les personnes, il peut y avoir une problématique de chômage, de difficulté à trouver un emploi. Aussi parce que, comme dans beaucoup de quartiers en France, quand on dit qu'on vient de l'île Sud, ça peut rebuter à recruter une personne. Il y a une certaine a priori sur les personnes qui viennent de l'île Sud, toujours. Donc voilà, c'est des problématiques en général que des personnes rencontrent. Et sur l'accès aux soins... Il y a plusieurs médecins généralistes, donc il y a une bonne présence de médecins généralistes, mais il y a très peu de médecins spécialistes. Donc ça ne couvre pas tous les besoins en besoins dentaires ou en optique ou en gynécologie, par exemple. Donc oui, c'est une difficulté, clairement, pour les personnes. Ils vont souvent à l'hôpital, donc il y a des spécialistes à l'hôpital, mais en médecine de ville, c'est plus compliqué. Ou alors il peut y avoir des dépassements d'honoraires, mais pas tout le monde peut se permettre de payer les dépassements d'honoraires. Le transport n'est pas la plus grande problématique. On est sur des barrières différentes, notamment pour beaucoup de personnes, la barrière de la langue. Le système est assez complexe, même pour n'importe quel français ou française, c'est difficile de tout comprendre. Alors pour quelqu'un qui ne parle pas français, c'est encore plus difficile. Et clairement, parmi les personnes qu'on accompagne, ce qui nous frappe, c'est vraiment le labyrinthe administratif par rapport au parcours de vie des personnes. Souvent, des personnes qui viennent nous voir ont déjà effectué des démarches, ont déjà essayé par eux-mêmes ou par elles-mêmes. Et elles viennent nous voir parce que se sont retrouvées bloquées, en fait, à un moment. Et donc, elles ont besoin de nous pour essayer de faire le point sur leur situation et voir quelles sont leurs barrières principales et essayer de travailler avec elles sur ces barrières.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Je vous laisse vous présenter.
Donc je suis une Algérienne en France, je travaille à l'hôpital comme médecin. J'accueille mes parents depuis 1 an et 3 mois pour raison de soins. Comme je suis jeune fille et médecin, ils avaient l'habitude que je les accompagne en leurs soins. Depuis quelques années déjà, donc ils venaient et repartaient. Et de plus en plus, ma mère nécessitait plus de soins, plus d'accompagnement et plus surtout d'accompagnement psychologique de ma part. Donc les premières années de 2012 jusqu'à 2017, elle venait, elle repartait, elle restait un moment autorisée par son visa. Et les soins qu'elle recevait ici en France étaient payés par moi-même. C'est-à-dire que j'ai jamais demandé une couverture maladie. Jusqu'à l'an dernier où son état psychologique s'est aggravé. Accompagnée par mon père également qui a une cardiopathie ischémique. Et en plein période de visa, mon papa a eu des complications sur le plan de santé où il a nécessité une hospitalisation. Donc c'est là où est parti le besoin de rester plus en France et de se soigner.
Et comment expliquez-vous que votre père ne bénéficie pas de l'aide médicale d'État, l'AME, parce qu'il est non résident en France ?
Voilà, donc une fois qu'on était sur la procédure, cette procédure prenait beaucoup de temps. Alors pour avoir déjà le rendez-vous pour déposer le dossier, il fallait attendre 9 mois. Et il y a un grand obstacle. Ils exigent qu'on récupère un document de résiliation de la couverture maladie en Algérie. En Algérie, ils disent qu'il y a un document qui est aberrant. On ne peut pas demander une levée de couverture de maladie pour un retraité qu'il a acquis de droit, là maintenant par rapport à son âge. On n'arrive pas à l'avoir. Et sans exagérer, il y a eu 15 interventions en Algérie pour avoir ce document. Pour le moment, on est devant une impasse. Il y a mon papa, par exemple, là, et il a dû, depuis la demande de l'aide médicale de l'État, il a eu des problèmes de santé, parce qu'il a la santé des palpitations et une douleur thoracique. Donc il a été accueilli par les urgences de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où il a eu les soins nécessaires, avec une indication d'un médecin d'être hospitalisé et d'être anticoagulé pour éviter qu'il fasse un AVC ou un arrêt cardiaque. Et donc, pendant l'hospitalisation aux urgences, on a bien marqué qu'en quoi mon papa n'avait pas le droit à la couverture maladie, où l'hôpital, via son assistante sociale, s'est engagé à déclencher ce qu'on appelle l'aide médicale d'urgence, qui a été refusée, sous prétexte qu'il y a un dossier d'aide médicale d'État qui est en cours. Et là, il y a quelqu'un qui m'a appelé du service social de l'hôpital pour me dire que le soin de mon père va être refusé. Et mon père dit qu'il a mis ses pieds à l'hôpital, il va être envoyé. Parce que les factures de la première hospitalisation n'ont pas été payées.
Elle s'est élevée à combien, ces factures ?
Aux environ 8000 euros.
Mais ça, vous pouvez les payer ?
Non.
Mais vous, en tant que médecin, vous pensez que ce sont des soins vitaux pour votre père, ça ou pas ?
Oui. C'est une personne qui risque de faire des complications à tout moment. Du coup, il faut faire ses soins, là. Mais je l'ai à la maison, je suis en train de le surveiller et de me dire si ça ne va pas, je le prends à l'hôpital. Mais en attendant, c'est vrai que si tu n'aimes pas, c'est une situation qui est difficile. Moi, ça m'épuise.
Wassim, vous êtes donc médiateur en santé pour l'ONG Médecins du Monde. le cas de madame est courant pour vous, parmi toutes les personnes qui viennent vous voir, Médecins du Monde ?
Si, c'est assez fréquent, en fait, parce que la sécurité sociale, ici, exige des justificatifs pour les personnes qui sont ici en France depuis longtemps, comme des personnes primo-arrivants. Ce qui est très difficile parfois de chercher ces justificatifs. Il y a parfois des corruptions dans les pays d'origine où on peut pas chercher parfois ces documents. Il y a aussi la compréhension du système. Bien sûr, la barrière de la langue. Puis après, il y a beaucoup de jargon dans notre métier. Les gens utilisent des termes qui sont pas les mêmes que les professionnels. On parle de reste à charge, dépassement d'honoraires, secteur 1, secteur 2, part complémentaire. Ça, c'est entre professionnels, mais les habitants utilisent CMU, qui n'existe plus maintenant depuis 2016. Mais nous, on comprend qu'est-ce qu'ils disent. Tous ces changements de pratiques ou des droits avec utilisation des termes, les gens ne sont pas nécessairement capables à absorber tout ça et les comprendre.
Moi aussi, j'ai à ajouter quelque chose par rapport à votre dernière question. C'est vrai que l'accompagnement des personnes dans le besoin est nécessaire. Parce que mes parents, par exemple, j'arrive même pas à imaginer s'ils étaient seuls, comment ils auraient fait. Donc là, je les accompagne, je me fais déjà en plus accompagner par Médecins du Monde et on n'arrive pas. Donc s'ils étaient seuls, ils auraient fait comment ?
Bon, merci madame.
Merci beaucoup.
Cimetière et on arrive à l'association L'Issue d'Insertion. C'est une association qui s'occupe de l'insertion professionnelle des personnes à l'île sud et qui a aussi deux psychologues.
Alors là, pour décrire un peu, effectivement, on a quitté ces petites maisons de briques rouges, je le disais tout à l'heure, propres au nord de la France, pour des plus grandes cités, des grandes tours qui symbolisent plutôt les villes de banlieue. C'est un changement de décor.
Enchantée, Lucie, de
votre intervention. Enchantée, Igor, bonjour, RFI.
Bonjour, donc Nathalie de Goumois. On y va.
On monte dans ton bureau.
Bah oui. Je vais fermer la porte, comme ça on sera
tranquille. Je vais le faire.
Allez, c'est parti. Donc, je suis Nathalie de Goumois, je travaille à l'île Sud depuis 2017, mais je suis psychologue, on va pas dire depuis 1914, mais depuis très longtemps déjà. Hein. Alors, les personnes que j'accompagne ont des problématiques très très variées, surtout des accidents de vie, des choses traumatiques qui n'ont pas été travaillées au moment où elles se déroulaient, un vécu traumatique, des carences éducatives, beaucoup de choses qui sont pas spécifique au quartier. Ce qui rend compliqué aussi mon travail, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont issues de la culture maghrébine, bien qu'elle soit française. Mais la difficulté, c'est que le rôle du psy dans cette culture-là est aussi complètement à démystifier. C'est un petit peu compliqué parce que beaucoup de personnes qui sont atteintes de pathologies ou qui présentent des difficultés, on ne va pas voir quelqu'un d'extérieur. On reste avec sa pathologie mentale dans la famille. C'est aussi le destin qui veut ça, le Mektoub, et on ne va pas effectivement aller consulter. Donc ça, c'est une dimension, une difficulté supplémentaire. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a quand même des motifs de consultation qui reviennent ?
Alors oui, il y a des motifs de consultation qui reviennent. C'est souvent quelqu'un qui va parler de ses violences conjugales, des difficultés à trouver un emploi, des violences sexuelles ou des attouchements sexuels qui n'ont pas été parlés. Et c'est souvent la première fois qu'une parole peut s'instaurer, quoi, en fait. Hein. Il y a une vulnérabilité de la personne, souvent, parce qu'elle a subi différentes choses. C'est très compliqué, c'est une histoire de rencontre, de choses qui n'a pas eu lieu à un moment donné, plus des facteurs sociaux, la pauvreté, la précarité, l'isolement aussi, hein, donc, et la difficulté, le non-accès à des codes, à des... voilà, quoi. Le sentiment aussi, un sentiment très très important auquel il faut faire face parmi les personnes que je rencontre, c'est le sentiment d'être déclassé. Hein, donc, et ça parasite beaucoup le travail, le sentiment d'être laissé pour compte. C'est souvent ça qui revient, quoi.
Moi, j'ai une question.
Allez-y.
Voici, mais alors, pardon.
Alors, la barrière de la langue, est-ce que vous confrontez parfois des personnes qui ne savent pas s'exprimer bien leur situation et comment vous pouvez les accompagner s'ils n'ont pas la capacité de comprendre vraiment ce que vous dites
En fait, les personnes qui viennent maîtrisent à peu près le français.
Mais justement, Wassim de Médecins du Monde pose une question intéressante. Est-ce que vous avez des collègues psychologues parlant couramment l'arabe ou d'autres langues?
Ça,
ou est-ce que,
rien.
De facto, toute personne ne parlant pas français est dès lors privée de soins psychologiques?
Ça serait bien, vous me donnez une idée, de recenser les psychologues qui parlent d'autres langues que le français. Pour favoriser l'accès aux soins, ce serait une bonne idée, ça.
Alors, je me tourne vers Wassim, hein, de médiateur de santé, de Médecins du Monde. Ça, c'est quelque chose sur le terrain que vous constatez, des gens ne parlant pas français qui auraient besoin d'un suivi psychologique. C'est fréquent, ça?
Oui, c'est fréquent, si. C'est très fréquent que, surtout en tant que primo-arrivant en France, ils ont des choses à dire, ils ont des problèmes à dévoiler et j'ai mal à trouver des solutions pour eux de comment on peut améliorer leur santé psychologique, mais dans leur propre langue, mais pas par une langue qui n'a pas d'attachement émotionnel avec eux. Voilà.
Merci infiniment.
Je vous en prie.
Priorité Santé, reportage.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes à Lille Sud, dans le nord de la France, pour vous faire vivre le quotidien d'un médiateur de santé, véritable trait d'union entre les personnes en situation de précarité et les professionnels de la santé, de l'action sociale et du secteur associatif. Le médiateur de santé est celui qui doit rétablir dans les faits l'égalité et l'accès aux droits, à la prévention et aux soins, dans les pas de Wassim, médiateur de santé à Lille Sud. Voici la suite du reportage d'Igor Strauss.
Alors, bonjour à toutes. Merci d'être venues ce jour-là. Alors, dans le cadre de Octobre Rose, la campagne destinée à sensibiliser sur le sujet cancer du sein, nous, Médecins du Monde et l'association Femmes, nous avons organisé ce temps pour vous poser des questions, vous informer sur ce sujet. Ce temps-là sera animé par Dr Sophie Dupont, médecin généraliste libéral dans le quartier Lille-Sud. Aussi, je tiens à vous dire qu'il y a des bénévoles de l'association Femmes qui vont faire la traduction si besoin. Voilà. Merci et je vous laisse commencer.
Bonjour, donc moi je suis le docteur Dupont-Sophie. Et en plus de la médecine générale, je fais de la gynécologie. Donc, quand Wassim m'a demandé si je voulais bien venir vous parler du dépistage du cancer du sein, bah, j'ai répondu oui avec plaisir, puisque c'est un sujet que je traite souvent avec les patientes. Et donc, voilà, l'idée, c'est de vous donner quelques informations, que vous puissiez poser toutes vos questions et qu'après, vous puissiez éventuellement relayer l'information à l'extérieur d'ici, puisqu'on sait que les femmes qui viennent, ce sont les plus motivées, mais qu'à la maison, dans les quartiers, la famille, les amis, ben, y en a d'autres qui sont un peu timides, qui viennent pas, et c'est aussi à ces dames-là qu'il faudra donner l'information. Alors moi, je voyais les choses, soit on part sur vos questions, ça peut aller dans tous les sens, on s'en fiche, il n'y a pas de questions bêtes, moi je réponds avec plaisir, soit c'est moi qui vous donne des pistes, je vous pose des questions sous forme un peu d'un jeu, et puis on avance comme ça, c'est comme vous préférez.
On y va ?
Si jamais je parle trop vite, n'hésitez pas à m'interrompre, notamment s'il faut traduire. Alors Wassim, il vous a donné un peu la réponse, mais est-ce que vous savez combien de femmes seront un jour atteintes du cancer du sein dans la pièce ? Alors je ne vous le souhaite pas, hein, j'espère que ce ne sera personne ici, mais si on devait dire... Tout à fait. Alors, il y en a 12 000 par an, donc ça fait à peu près une femme sur 3, une femme sur 10 ou une femme sur 20, selon vous ?
Sur 10.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est à peu près 10%, donc malheureusement, si on est 30 ou 40 là aujourd'hui, et bah, exactement, il y aura 3 ou 4 femmes qui auront un jour un cancer du sein dans leur vie. Est-ce que quand je fais des mammos, je dois quand même aller chez mon docteur me faire examiner ?
Oui.
Donc déjà, la mammo, c'est tous les 2 ans. Chez le docteur, c'est tous les ans. Donc il faut faire les deux. Et ça n'empêche pas, hein, moi j'ai des dames qui viennent me voir pour l'examen gynéco, et elles me disent, mais non, mais j'ai fait ma mammo la semaine dernière. Je ne veux pas le savoir. D'accord ? Vaut mieux une fois pour rien plutôt qu'on oublie et que la fois d'après, c'est la catastrophe. Il y a d'autres questions ?
C'est bien comme ça, on est plus à
l'aise. Bah oui.
Les médecins, ils sont toujours débordés avec les autres malades et on n'arrive pas à poser des questions. Mais aujourd'hui, je suis bien à l'aise pour poser des questions. Merci beaucoup.
D'habitude, madame, vous êtes moins à l'aise, c'est vrai ?
Oui, c'est question de temps. Parce qu'il y a d'autres patients qui attendent, il n'a pas le temps d'expliquer. Et moi, je suis gênée pour poser plein de questions à mon médecin parce que je sais qu'il y a des autres qui attendent dans la salle. C'est pour ça, là, je peux poser une question, je sais que j'ai la réponse, je suis à l'aise et j'ai le temps. Voilà.
Bah, c'est bien, alors il faut féliciter les organisateurs.
Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai dit ? Merci. Déjà, j'ai dit merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci, madame.
Bonjour, je suis le docteur Dupont-Sophie, médecin généraliste à la Maison de Santé de l'Île-Sud, à Lille.
En tant que médecin, comment vous percevez-vous ce rôle de médiateur de santé ? En quoi il peut vous aider ?
Alors nous, en tant que médecin généraliste, on est en première ligne, hein, on accueille les patients pour de nombreuses raisons, et ils ont parfois des motifs médicaux bien sûr, mais aussi on est parfois leur premier interlocuteur social. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait notre formation initiale. Donc là, récemment, on a débuté un partenariat avec les médiateurs en santé de Médecins du Monde et ça nous aide beaucoup, notamment sur l'aspect social de la problématique globale des patients qu'on voit quotidiennement, parce qu'on était un peu démunis par rapport à ces demandes qui peuvent parfois dépasser le cadre initial de notre formation.
Par exemple, est-ce que vous avez des cas concrets à nous donner ?
Par exemple, l'accès aux droits, on a beaucoup de patients qui arrivent sans aide médicale d'État, sans sécurité sociale, le droit au logement aussi, des patients qui sont parfois à la rue ou qui ont des logements insalubres. Et puis après, parfois, c'est juste de l'accompagnement, hein, puisqu'il y a des patients, on se rend vite compte qu'on leur propose des rendez-vous et qu'ils s'y rendent pas une fois, deux fois, trois fois. C'est pas qu'ils veulent pas s'y rendre, c'est que c'est difficile pour eux d'organiser leur planning, de prendre le métro ou éventuellement d'y aller à pied. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui est très apprécié à la fois par mes confrères et moi-même, et aussi par les patients, puisque vraiment, ça améliore leur qualité de vie.
Et alors, aujourd'hui, les principales difficultés que vous rencontrez, c'est quoi ?
Alors, d'un point de vue purement pratique, ben, il y a les patients qui Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu une famille donc anglophone avec 3 enfants en bas âge, premier contact médical depuis leur arrivée en France, avec un parcours de migration assez complexe, des pathologies assez complexes, et ils avaient pris un rendez-vous de 15 minutes pour eux 5. Donc je leur ai expliqué que aujourd'hui ce serait pas possible de tout faire, qu'on allait s'occuper du plus jeune qui a un mois, puisqu'il me paraissait le plus prioritaire d'un point de vue médical pur. Et on s'est occupé de ce bébé, j'ai fait connaissance avec eux, j'ai créé leur dossier administratif, et je leur ai redonné un rendez-vous la semaine prochaine, un rendez-vous plus long cette fois, j'ai bloqué 1 heure, pour pouvoir faire le dossier des autres enfants, voir les priorités médicales, les priorités sociales. J'ai cru comprendre qu'ils vivaient à l'hôtel, ce qui va être compliqué là pour l'hiver avec un petit bébé d'un mois et 2 autres enfants un peu plus grands. La maman me disait déjà qu'il y avait des problèmes par rapport à l'hygiène parce qu'ils peuvent pas prendre de douche tous les jours. Donc je sais que c'est des gens que je vais voir régulièrement, surtout cet hiver, parce que les enfants en bas âge, ils sont plus sensibles à faire des infections l'hiver, bien sûr. Et puis il y aura aussi probablement un accompagnement social à leur proposer, bien sûr.
En résumé, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour répondre à la demande de soins d'un quartier comme l'île Sud ?
Alors d'abord, on sait que la démographie médicale, elle est scalée et que même les médecins généralistes à Lille, même si on sait qu'on est mieux dotés qu'en Auvergne par exemple, j'ai cru comprendre, mais quand même, il manque de médecins généralistes aussi à Lille, de plus en plus. Là, on a 3 médecins qui sont partis en retraite dans le quartier, qui n'ont pas été remplacés et on récupère leur patientèle, mais ça pourra pas être indéfiniment le cas. Donc il faudrait plus de médecins, c'est sûr, mais il faudrait aussi plus de liens entre le médical et le social. Moi, en faisant le DU Santé Précarité, je me suis vraiment rendu compte qu'on était beaucoup trop isolés, qu'on travaillait pas suffisamment ensemble. Et donc finalement, il y a plein de choses qui existent, mais dont on n'a pas connaissance. Donc je pense que le plus important, c'est de créer un réseau, d'apprendre à se connaître. Alors c'est sûr, faut prendre le temps de recevoir ses interlocuteurs, ses contacts, mais c'est hyper important d'abord pour nous d'un point de vue purement culturel, intellectuel, mais aussi pour nos patients, parce que c'est le meilleur moyen de leur offrir une prise en charge globale, comme le veut la médecine générale, à savoir biopsychosociale.
لا مشان نحكي مشان نحكي
واسيم. Alors une petite précision, on vous entend parler l'arabe puisque vous êtes syrien, vous, c'est ça ?
C'est ça, je suis syrien et je parle l'arabe syrien et littéraire pour communiquer avec quelques habitants de l'île sud et c'est utile pour leur expliquer les communications de la CPAM, des confirmations des rendez-vous et c'est plus simple pour eux en arabe.
Bien sûr. Alors, on est entré chez une famille, vous pouvez nous les présenter ?
Oui, alors c'est Maïsam et Madame Isra, et ils ont une jeune fille, Mariam.
Vous parlez français, vous, monsieur ?
Non, par français, arabe.
Et vous êtes de quelle nationalité, vous ?
Irakien.
Et ça fait combien de temps que vous êtes à Lille, ici ?
À peu près 2 ans.
Ça vous plaît ?
Non, ça va. Logement c'est petit.
Il y a combien de pièces ?
Alors, monsieur dort ici, et madame avec sa fille dort dans la chambre, qui est de même taille de cette pièce ici.
D'accord, donc ici, pour décrire, c'est quoi ? C'est une pièce d'une dizaine de mètres carrés, à peu près ?
Oui, dizaine.
C'est une petite cuisine aménagée.
Cuisine, salle à manger et salon.
Et salon, ça fait tout à la fois. Ça, il y a quand même une machine à laver le linge.
Et
lac. Ah oui, effectivement, je vois le matelas de monsieur.
Pour monsieur, le soir.
Oui, donc c'est petit, effectivement.
Le problème, c'est le second. On va faire le problème, c'est le second.
Il dit que leur problème, c'est le logement et c'est une priorité dans leur quotidien.
Madame قد مريضة يعني رجليها وظهرها وكل الأمراض من وراء الأرض يعني.
Alors madame, il y a une opération à faire, mais c'est reporté parce que elle ne peut pas être opérée dans ce logement parce qu'il y a des escaliers à monter et à descendre.
Du coup, c'est reporté dès qu'il y a une solution de logement pour eux.
D'accord. Est-ce que je peux vous demander, monsieur, dans quelles circonstances, vous et votre famille, vous êtes arrivé en France? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir en France? Et comment ça se passe finalement depuis que vous êtes arrivé ici?
عفنا من بلدنا من الحرب من 2014 نهاية 2015 تقريبا وإحنا كان هدفنا هولندا لأن هلا بهولندا كلهم فعدنا فيزا أخذنا فيزا من العراق فرنسية فمن رحنا بهولندا مطونا اللجوء لهولندا بقينا سنة ونص تقريبا وبعدين الحكومة الفرنسية طلبتنا وجابتنا هون لفرنسا.
Alors, ils ont dû quitter l'Irak à cause de la guerre, fin 2014, par un visa français pour la France. Mais comme la famille de madame, elle a de la famille aux Pays-Bas, ils sont allés directement là-bas. Et après un an et demi là-bas, la France les réclamait de revenir ici sur les procédures Dublin. Ça, c'est un accord européen. Que le pays d'entrée est le pays responsable de la personne. Et comme ils ont demandé un visa pour la France peut les réclamer même si ils étaient dans un autre pays.
Et ça, monsieur, pour vous, ça a été un problème de revenir en France ?
Alors, il dit que oui, bien sûr, là-bas, ils sont entourés par la famille, c'est plus simple là-bas. Ils ont le statut réfugié, ça veut dire 10 ans de séjour, mais par contre, ils n'ont pas encore la carte de séjour. Jusqu'à maintenant, c'est un récépissé par la préfecture. Ça pose de problématiques pour ces personnes parce que sans carte de séjour, ils ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire, tout bêtement, comme ça. Et c'est obligatoire pour avoir des abonnements, par exemple Internet, pour avoir un compte électricité à leur nom. Et bien sûr, la facilité de payer par la carte bancaire dans les supermarchés ou dans les magasins. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas cette facilité.
Et ça fait déjà 2 ans, donc c'est...
Ça fait 2 ans, oui.
Mais alors justement, est-ce que vous avez un travail? Et comment faites-vous pour vivre, du coup?
Ça, c'est la formation. الدخل نستلم 850 اورو من الصافي يعني والكاف.
Ils disent que pour le moment ils n'ont pas de travail mais récemment ils suivent un cours de français obligatoire par l'OFI, l'Office française pour l'intégration et l'immigration. Il faut au moins avoir ce niveau avant de continuer leur chemin avec voilà Pôle emploi ou d'autres propositions sur le marché.
Là, ils ont pas offert les حاجات اللي يحتاج اللاجئ. ليه جابونا من هولندا؟ خلي يرجعونا لهولندا. اذا عندهم زخم هم لاجئين وتاخير كل الدوسيوات وهاي وما يقدرون يوفرونا اللي شيء اللي احنا نحتاجه اللي نرتاح له يرجعونا لهولندا.
Bah, il parle que pourquoi si la France ne peut pas donner les moyens et les conditions basiques de vie pour les réfugiés, pourquoi elle les réclame des autres pays européens, qu'ils les laissent là-bas s'ils n'ont pas les moyens de les donner les moyens.
Merci monsieur.
De rien monsieur.
Yallah.
Merci, monsieur. Bon courage. Merci. Au revoir.
يلا بنرجع.
Coordinatrice du programme de Médecins du Monde ici à l'île Sud. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance et comment est valorisé ce rôle de médiateur de santé ?
Alors la médiation en santé et l'interprétariat médical ont été tous les deux reconnus comme des moyens de lutter contre les inégalités de santé. Donc dans la loi de santé de 2016 et suite à ça, la Haute Autorité de Santé a été chargée de faire des référentiels de compétences et de formation et de bonnes pratiques sur la médiation en santé et l'interprétariat médical. Donc c'est quelque chose qui est reconnu, c'est un outil qui est reconnu dans la lutte contre les inégalités de santé. Et il y a par exemple dans les Hauts-de-France, c'est une des rares régions où l'Agence régionale de santé finance en partie des postes de médiateurs et médiatrices en santé. Il y a des avancées sur la médiation en santé, mais sur l'interprétariat médical, c'est aussi reconnu comme un outil important, mais c'est quelque chose qui coûte cher, le système d'avoir des interprètes disponibles un petit peu à toute heure de la journée, dans n'importe quelle langue, c'est quelque chose qui coûte cher, donc il y a vraiment la question du financement de ça. Donc nous, on a un petit budget, mais Wassim, qui est médiateur en santé, étant arabophone, se retrouve dans une situation où il fait régulièrement l'interprète. Alors que normalement, c'est pas censé être le rôle des médiateurs et médiatrices en santé, mais souvent, c'est le cas, il se retrouve, s'il parle une langue étrangère, à faire l'interprète. Sauf quand on est en consultation médicale, il peut y avoir la question du secret médical, donc c'est là qu'il peut y avoir des difficultés, d'où l'importance d'avoir des interprètes professionnels qui peuvent assurer une qualité des traductions et surtout la question du secret médical.
Alors il y a des médiateurs de santé, puis il y a également des ambassadeurs de santé. Quelle est la différence et quel est leur rôle aux ambassadeurs de santé ?
Ce sont des personnes bénévoles, donc c'est des habitants qui sont sensibilisés aux questions de santé et qui se portent volontaires pour ensuite aller sensibiliser les personnes et aller aider les personnes sur les questions santé. Donc c'est vraiment un outil de la ville pour ce qu'elle appelle la démocratie sanitaire, c'est aussi que les habitants puissent prendre en charge eux-mêmes la question santé entre eux.
Alors vous nous avez emmenés dans un nouvel endroit. Toujours sous le soleil de l'île Sud, on a de la chance, le beau temps est avec nous aujourd'hui. Où sommes-nous ?
Donc là, on est au cœur de l'île Sud et on est à ce qu'on appelle la Fabrique du Sud, qui est un lieu géré par la mairie de quartier pour accueillir différentes associations. C'est un lieu qui est assez, qui est en rond, donc on a...
Il ressemble à un chapiteau de cirque, on pourrait dire.
Oui, c'est ça, c'est vrai que ça ressemble à un chapiteau de cirque. Donc voilà, c'est vraiment à destination des associations sur le quartier.
On entre pour voir ce qui se passe ? Et donc nous voilà effectivement sous ce qu'on pourrait appeler le chapiteau. C'est coloré, c'est rouge, jaune, c'est refait à neuf.
Oui.
C'est un très beau lieu.
Ouais, c'est vrai que c'est un très beau lieu. Ouais, c'est vraiment une ambiance de chapiteau. Et donc là, il y a Fatima qui est ambassadrice santé.
Bonjour déjà. Je me suis pas présenté. Ça va ?
Ça va et vous, Fatima ?
Ça va bien. Igor moi.
Igor.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir ambassadrice de santé, justement ?
Et ben, quand j'ai découvert ça dans une réunion justement au centre de soins, donc ils nous ont parlé justement d'ambassadeur santé et est-ce que vous êtes intéressé de le faire. Donc j'étais partante et on était formés justement pour les ouvertures de droits, de tout ce qui est administration et tout ça, l'écoute active. Après, je me suis lancée.
Alors, selon vous, quels sont les principaux problèmes rencontrés par les femmes? C'est le manque de connaissance justement de leurs droits, c'est les problèmes de langue. Quels sont les principaux problèmes pour ces femmes?
En fait, c'est un petit peu de tout ça. Et en plus, c'est un manque de confiance. Des fois, c'est difficile de la personne parle de sa maladie. Que des fois, leur santé, ils les mettent à côté tellement il y a beaucoup de problèmes à côté, de famille, de cette barrière de la langue, que la personne, ben, elle avance pas. Mais nous, le fait qu'on a plus de contacts faciles que une personne dans le milieu professionnel. C'était relevé par le centre de soins, justement, auprès de ma collègue, qu'ils avaient beaucoup de poussées de portes. Alors qu'avant, le centre de soins, en fait, il était que là et avec une permanence. Mais là, ils ont trouvé que ça bouge plus. Les gens, ils osent pousser la porte et rentrer pour des consultations, pour des demandes d'informations, pour des ouvertures de droits. Donc, on sentait que le message passe. Et là, récemment, en fait, ils m'ont appelé justement avant-hier pour me dire que vraiment, il y avait une visite de gynéco, qu'elle était proposée. Sans rendez-vous pour les femmes, alors que la gynéco elle était tout le temps là, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, ils avaient trop de monde, justement. Donc, ils étaient contents. Ils m'ont rappelé, parce que c'est à l'accueil. Ils ont demandé, vous avez eu où l'information. Donc, ils l'ont dit, c'était par Fatima. Du coup, je trouve qu'ils sont quand même plus intéressés par leur santé et la santé des enfants. Et on a parlé beaucoup du diabète et tout ça. On se trouve quand même que le diabète aussi, il touche le quartier énormément. Du coup, ça commence à sortir en fait de leur coquille. C'est très important de voir en fait le résultat.
Alors s'il y avait justement deux, trois choses essentielles selon vous à améliorer, ça serait quoi par exemple?
Ça serait quand même faire attention pour la nourriture. Le sommeil, par exemple, la qualité de sommeil, les dangers aussi auprès des écrans.
Merci Fatima.
Merci.
Dans les pas de Wassim, médiateur de santé à Lille-Sud, c'était un reportage d'Igor Strauss, réalisé par Didier Bleu. Lundi, dans Priorité Santé, nous vous proposons de réentendre l'émission que nous avions consacrée à l'envenimation, morsure de serpent, piqûre de scorpion. Comment réagir en situation d'urgence? Quelles prises en charge? Quels traitements sont disponibles en réalité sur le terrain? Nous vous donnons la parole dès 9h10, temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunoy Assurance. Faites comme tous nos clients prévoyants, mettez à l'abri ceux qui vous sont chers. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunoy Assurance, notre métier d'assurance.
L'épopée des musiques noires.